vivre libre, vivre libre avec toi.
Bonjour à tous, c'est aujourd'hui une nouvelle émission pour présenter les quatre ouvrages encore en lice dans le cadre du prix littéraire Au cœur du livre, le prix littéraire des bibliothèques du Piémont-Cévenol. Donc nous avons actuellement encore en lice Un cœur outragé de Philippe Torreton, Ilos de Marion Brunet, Prend toutes les rues qui montent de Muriel Holtz et de Sandrine Bourguignon et d'une vie tout animale. Alors Muriel Holtz, bonjour. Je vous reçois aujourd'hui dans le cadre du prix littéraire Au cœur du livre, qui est le prix littéraire des bibliothèques du Piémont-Cévenol. Et vous êtes donc du coup une des autrices encore en lice, puisqu'il y a quatre romans encore en compétition. Vous êtes l'autrice de « Prends toutes les rues qui montent ». Et c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander quelle a été la genèse de ce roman ?
Oui, bonjour Chloé, bonjour Radio Escapade. Alors en effet, j'ai sorti à l'automne de cette année ce premier roman aux éditions Les Presses de la Cité qui m'a été inspiré par la découverte, il y a plusieurs années, de la correspondance entre mes grands-parents, c'est-à-dire pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que ma grand-mère, elle était à Saint-Étienne. Et pendant ces 5 années de guerre, mon grand-père, lui, a été fait prisonnier en Oflac. Ce sont des camps de prisonniers pour les officiers. Lui n'était pas officier, il était ordonnance. C'est un peu la boniche des officiers. Et pendant ces 5 années de guerre, ils ont correspondu. C'était absolument autorisé, mais dans des formats réglementés. Mmh. Et donc, on a retrouvé avec ma mère et ma sœur, il y a donc plusieurs années, ces lettres-là, dans un carton qui était passé un peu de grenier en grenier, comme ça.
Oui.
Ma mère nous a tendu le carton, à moi et ma sœur, et nous a dit, bon, bah, regardez, si vous voulez, dedans. Hop, on a déplié ça. Donc, c'est de la matière très fragile, hein, puisque les lettres étaient écrites sur du papier très fin, oui, au crayon mine, souvent dans une écriture assez resserrée pour gagner de la place, avec des abréviations. Et donc, on a déplié ça et on a découvert, c'était absolument fabuleux, du coup, tout ce lien qu'il y avait entre ma grand-mère et mon grand-père et puis toute cette époque.
Ça a rendu vivant un passé qui n'est pas si lointain, mais qui commence déjà à être rentré dans l'histoire, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis un passé dont ma grand-mère n'a pas trop parlé, en tout cas, pas beaucoup à moi. Et puis moi, c'est un grand-père que moi, j'ai pas connu. Lui, il est mort à ma naissance. Donc, je découvrais, j'avais, je crois, à peu près 35 ans, je crois, quand j'ai découvert ses lettres. Lui avait cet âge aussi quand il les écrivait. Il était fait prisonnier de 30 à 35 ans. Donc, oh. On avait le même âge, disons, mais à des époques totalement différentes.
Oui.
Et puis, bon, dans une histoire absolument différente aussi, quoi.
Et oui, et puis ce lien amoureux auquel on n'a pas accès en général en tant qu'enfant ou petit-enfant d'un couple,
oui,
on n'a pas un regard sur le fait que c'est deux personnes qui s'aiment, qui après ont fait des enfants, quoi.
Oui, ça d'ailleurs, ça posait question à ma sœur qui trouvait qu'on rentrait un peu dans l'intimité et qui se sentait pas tout à fait légitime à lire ses lettres. J'étais un peu moins gênée, bien plus... un peu moins complexée avec ça.
Oui.
Enfin, du coup... On a eu quand même l'impression d'avoir un trésor historique et familial un peu dans les mains.
Mmh.
Et donc, on s'est appliqué, et ça aussi, ça nous a pris un sacré moment, à tout déplier, à tout remettre en ordre chronologique, et ensuite à tout taper sur l'ordinateur pour pouvoir les conserver, puisque dès qu'on les manipulait, elles s'abîmaient un peu.
Mmh.
Donc, pour pouvoir les conserver et pour pouvoir les consulter, les lire plus facilement.
Et après, à partir de ce travail-là, à un moment donné, vous est venue l'idée d'utiliser ce matériau un peu brut pour en faire une fiction.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Quand on a eu un petit bouquin qu'on a fait nous-mêmes, quoi, qu'on a distribué un peu à la famille, avec l'entièreté des lettres, se sont passés encore quelques temps, je crois même une année, avant que moi je replonge dedans et que je me dise « Oh là là, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose à partir de ces lettres en termes de fiction et d'écriture. » Et donc c'est à ce moment-là que je me suis documentée davantage sur la condition des femmes pendant les guerres, pendant la guerre, cette guerre-là, sur le bombardement qu'il y a eu à Saint-Étienne et dans 10 autres villes de France, juste avant la libération.
Oui.
Ça, c'était un événement. Ma grand-mère m'avait un petit peu parlé. Quand elle m'avait un petit peu parlé, elle me parlait surtout de ce souvenir qui l'avait choqué, des enfants d'une école qui avait été ensevelie par les bombes, qui n'étaient pas morts sur le coup, qu'on avait retrouvé avec les doigts écorchés, qui avaient tenté de s'enfuir, qui n'étaient pas parvenus. Elle m'avait raconté un peu ce souvenir. Donc, je me suis documentée beaucoup aussi sur cet événement. Et à partir de là, j'ai créé une fiction.
Et oui, oui, et c'est ça qui est intéressant justement dans ce roman, c'est ce que je voudrais aussi transmettre aux gens qui nous écoutent, c'est qu'on est vraiment dans la petite histoire, dans la grande histoire, quoi. On est vraiment sur voilà, les conditions de vie au quotidien qui étaient quand même très axées sur la survie, trouver à manger, trouver de quoi envoyer par colis des bocaux à ce mari prisonnier loin et essayer coûte que coûte de faire grandir les enfants dans un cadre qui est tout sauf serein, quoi. Et cette famille-là qui essaye de continuer à faire famille. Et c'est pas évident parce que ça devient de plus en plus une idée calquée sur le réel puisque ce père-là... il n'est pas là dans le quotidien des enfants. Mmh. Il existe qu'à travers des lettres et à travers une photo qui est posée sur le buffet, qui le représente beaucoup plus jeune, bien habillé forcément, puisqu'il y avait peu de photos à l'époque. Et cette idée-là de continuer à être une famille, en fin de compte, c'est ce qui traverse toute l'idée du roman, quoi.
Oui, ce qui m'intéressait aussi, c'était de le prendre en effet le plus souvent possible du point de vue des enfants. C'est-à-dire que cette situation d'être un enfant, au-delà des aspects de survie que ça demandait, mais d'être un enfant sans ce père, mais ce père, cette figure du père qu'on convoque quand même sans arrêt, à qui on écrit, à qui on passe du temps à faire des colis, qui est là de façon fantomatique, mais quand même très présent. Comment ce père, qui après revient au bout de 5 années, qui est devenu un parfait inconnu pour la plupart des gamins, voire même certains ne l'ont même pas connu du tout, comment tout ça arrive quand même à faire famille, ou quelles sont les difficultés en tout cas pour y parvenir, voire l'impossibilité peut-être pour certains.
Et oui, puis la libération, c'est aussi quand même... c'est aussi un effondrement, puisque... Pour la France, en tout cas, c'est passé à une nouvelle étape du roman de la nation, quoi. C'est quand même se dire que voilà, il y a des figures tutélaires qui sont déboulonnées, quoi. Et on peut rappeler l'âge des deux enfants parce que justement, à travers les yeux de la jeune fille, il y a tout le rapport aussi à Pétain, à l'école. Quel âge a la jeune fille de la famille ?
Alors, j'avais tablé entre 8 et 12 ans. Voilà. Au début du roman, elle a plutôt 8 ans et à la fin plutôt 10, 11. Ouais.
Et le petit garçon ?
Le petit garçon, il a... Alors, au début du roman, il est tout petit, hein, puisqu'il ne marche pas encore.
Oui.
Il a plutôt un an.
Entre un an et demi et 4 ans, peut-être, on va dire, chose comme ça. Oui, ouais, d'accord. Et à travers les yeux de la jeune fille, de cette toute jeune pré-ado, ado, on voit aussi le questionnement qu'elle a au fur et à mesure sur ce que lui racontent les adultes, quand même. Puisque...
Oui, c'est ça. C'est un des points phares que j'ai toujours essayé de garder dans l'écriture, c'est le rapport au mensonge. Comment on fait quand le réel autour de nous ou ce qu'on nous raconte ne correspond pas ? Quand il y a une différence entre le discours et la vérité, et ce qui est palpable. Et du coup, il y a tout ce rapport au mensonge, que ce soit sur ce fameux bombardement, qui en fait est un bombardement allié, hein, mais pas sur le bombardement des Allemands. Ce ne sont pas les Allemands qui bombardent les villes, Saint-Étienne, à cette date du 26 mai 44. Mm. Ce sont les Américains, comme ils le font sur 10 autres villes de France. Donc comment on fait aussi pour continuer à croire en amitié quand l'allié même détruit tout ce qui est autour de nous?
C'est ça, c'est qu'ils ne sont pas convoqués à la grande fête et à la grande joie de la libération, quoi. C'est que à Saint-Étienne, ils sont aussi encore en train de pleurer leur mort et ce n'est pas non plus un tournant évident pour eux. Voilà.
Ouais.
Peut-être que vous pouvez nous en dire, nous dire quelques mots sur cette maison d'édition qui a publié votre premier roman et oui. Sur l'accueil qui a été réservé à ce premier roman.
Alors, quand j'ai eu fini, moi, l'écriture de cette fiction, je l'ai envoyée à, je ne sais plus, peut-être une quinzaine de maisons. Moi, j'avais jamais été éditée pour le moment, donc j'ai fait un peu au hasard et aussi, enfin, en fonction des maisons qui semblaient correspondre un peu à mon projet. Et aussi sur les conseils d'un ami, je l'ai envoyé à cette maison qui s'appelle Les Presses de la Cité et qui ont chaque année des publications réservées pour le prix Jean Anglade. C'est un prix qui est réservé au premier roman.
Ah oui, d'accord.
Donc je l'ai envoyé, bon, sans trop y croire, parce qu'en plus, c'est pour envoyer à cette maison, il faut le faire via une plateforme et tout ça. Enfin, malgré tout, 15 jours plus tard, j'ai eu un coup de fil de Clarisse Nodot, qui est donc éditrice auprès de la Cité, qui m'a appelée pour me dire que le roman l'intéressait beaucoup, elle avait eu un vrai coup de cœur et qui m'encourageait justement à le présenter dans le cadre du prix Jean Anglade. Ça m'a demandé de retravailler le roman, puisque pour postuler à ce prix, il y a un nombre de caractères minimum qui était de 200 000 et le mien ne faisait que 165 000, je crois.
Ah.
Du coup, il m'a fallu retravailler le roman. Alors, il n'était pas question de rajouter des adjectifs et de rallonger les phrases. Il était plutôt question de créer une partie que je n'avais pas créée et de tirer le fil d'un personnage que je n'avais pas trop tiré, qui est celui de Chenapan.
Ah oui, qui, oui.
Voilà.
L'ami, ouais. Enfin, le petit garçon qui vit sans famille, en fin de compte, qui se débrouille un peu tout seul dans la ville. Et qui va être l'ami des deux enfants de la famille.
Voilà, c'est ça.
Okay.
Et par ce biais-là, je convoquais aussi cet événement que je ne connaissais pas trop, ce sont les républiques d'enfants qui ont existé aussi pendant la guerre, c'est-à-dire c'est des centres dans lesquels les enfants, notamment les orphelins, étaient accueillis par des instituteurs ou autres personnes et qui tentaient de mettre dans ces lieux-là, on tentait de mettre vraiment l'enfant au cœur du projet de vie, c'est-à-dire que c'est lui-même qui s'emparait un peu des questions d'organisation,
c'est ça.
Ensemble, voilà, ce qui est peut-être...
Et ce qui était déjà un peu... dans la mouvance de la pédagogie de Célestin Freinet ou peut-être bon
c'est ça oui
voilà
penser à ça. Les adultes se disent à ce moment-là bon on fait tellement d'erreurs c'est pas possible oui. Le monde va tellement mal on se fout sur la gueule il y a des morts par milliers il y a du sang de partout peut-être que nous on n'a pas la solution peut-être sont les enfants
oui.
Qui peuvent avoir la solution d'une paix durable et du coup dans ces petites dans ces lieux-là, l'organisation était tout autre que ce qu'il y avait l'habitude auparavant. Quoi.
C'est ça, donner aux enfants la possibilité d'avoir voix au chapitre. Et du coup, toutes ces parties-là du roman font écho avec les parties où on voit la jeune préado de la famille aller à l'école, dans cette école de la République française, où on est dans une époque pétainiste et où on est dans une toute autre approche à la fois de l'éducation et de la communauté de destin vers lesquelles on veut amener toute cette tranche d'âge. C'est-à-dire que...
Oui, c'est ça, ouais.
Il y a de gros enjeux, il faut qu'ils se préparent à défendre la nation, et c'est avant tout ça qu'on attend d'eux, en fin de compte.
Mm-hmm.
Voilà. Mm-hmm. Oui, donc effectivement, le personnage de Chenapan, il amène aussi ce tournant-là, où on sent que le monde d'après, le monde post-Seconde Guerre mondiale, va faire aussi table rase d'un certain principe, quoi, voilà.
Oui, va tenter d'autres choses, oui. Mm. C'est l'espoir à ce moment-là, oui.
Et alors, ce prix Jean Anglade, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Eh bien, donc quand j'ai atteint mes 200 000 caractères, j'ai pu postuler du coup à ce prix, pour lequel j'ai été présélectionnée, je suis arrivée dans la finale,
ouais.
Et malheureusement, je l'ai perdu.
Ah, bon.
Ouais. Donc, c'était une petite déception, mais c'était quand même déjà une grande joie d'avoir été sélectionnée pour ce prix. Et puis, malgré que j'ai perdu, la maison d'édition a quand même choisi d'éditer ce bouquin. Donc, pas dans les temps impartis pour celui ou celle qui remporte le prix. Ça a
oui.
été, du coup, dans un délai un peu plus long. Mais enfin, du coup, ils l'ont quand même édité. Et j'en suis très, très heureuse. Voilà. Et du coup, il fait sa vie de roman depuis l'automne dernier.
Et oui, tout à fait. Ben oui, oui, c'est... Voilà, aller à la rencontre des lecteurs progressivement, ça suit son cours, quoi. Donc on essaye, nous aussi, modestement, de le mettre en lumière, parce que ça fait partie donc, des romans coup de cœur de notre sélection du prix littéraire, qui est une sélection ce sont les adhérents des bibliothèques, les élus, les professionnels qui lisent des ouvrages un peu toute l'année et puis qui vont choisir l'ouvrage qui les a le plus marqués dans l'année.
Je suis très heureuse de l'ayez sélectionné.
Bon, tant mieux. Est-ce que vous souhaitez nous dire autre chose sur ce roman, sur qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est votre premier roman ?
En vérité, c'est mon premier roman édité, mais j'avais sorti un premier roman peu après le Covid, une petite fiction que j'avais auto-publiée, c'est-à-dire que moi-même, je m'étais occupée de mettre en page et puis d'imprimer et de vendre ce bouquin qui s'appelle « Festin pour un fou ». Donc ça a été vraiment mon premier livre, mais celui-ci, c'est le premier qui est édité. Voilà.
Et du coup, vous êtes de plein pied dans la création depuis peut-être toujours, pour ainsi dire. Vous avez plusieurs casquettes. Il me semble que vous avez un parcours aussi important dans la musique, en tant que comédienne. Vous voulez nous en dire deux mots, peut-être ?
Oui, j'ai longtemps bourlingué. Les gens des Cévennes m'ont peut-être croisé pour certains qui nous écoutent. J'ai pas mal bourlingué avec l'accordéon pendant longtemps, dans des groupes de musique ou pour créer et interpréter des musiques de spectacle. Ensuite, je suis passée pas mal sur la composition. J'ai tourné un solo pas mal de temps qui s'appelait Soliphonie, où je travaillais avec un looper et où je doublais mes voix au piano essentiellement, et où là, en effet, j'écrivais les chansons.
Okay.
Ces dernières années, j'ai un peu quitté le monde du spectacle pour être davantage sur l'écriture et très clairement, depuis un an et demi, je suis investie de façon très régulière sur un tout autre niveau, c'est-à-dire que je suis à Briançon, près de la frontière franco-italienne, où là, je suis investie dans une association qui s'occupe de l'accueil des personnes exilées qui traversent la frontière. Donc, on est sur un tout autre registre, ce qui ne m'empêche pas de continuer d'écrire, notamment sur ce que je vois ici, et ce que j'observe ici, qui est assez beau en termes de solidarité et assez terrible en termes de répression policière.
Et alors, du coup, est-ce que ça serait matière à un second roman, peut-être ?
Alors, ça ne sera pas matière à un second roman. Par contre, ça sera matière à un journal de bord que j'avais déjà auto-édité, pareil, l'été dernier, en quelques exemplaires, et qui a été choisi par une maison d'édition dernièrement, qui sortira donc dans une nouvelle version en novembre prochain, le 14 novembre, je crois, par les éditions Les Étacs, qui sont installées à Lille. Et ça, c'est plutôt, donc en journal de bord, on est vraiment sur l'écriture quotidienne que j'ai faite lorsque j'ai vécu 4 mois dans un squat pour personnes exilées ici à la frontière quand l'association Refuge Solidaire était fermée. Voilà, donc ça fera l'objet d'une prochaine publication, j'en suis bien heureuse aussi.
On attend alors, du coup.
Ok, très bien, ouais.
On attend mi-novembre pour découvrir ça. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous, merci beaucoup.
À très bientôt alors.
Oui, à très bientôt. Merci pour ce temps. Merci beaucoup. Merci Radio Escapade.
Oui. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. كل من ابني
Nous venons d'écouter Holm de l'artiste Emel. Alors, Sandrine Bourguignon, bonjour.
Bonjour, Chloé.
Alors, nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre du prix littéraire au cœur du livre, qui est le prix littéraire des bibliothèques du Piémont-Saônol. Et votre roman est d'une vie tout animale, édité par la maison d'édition Cambourakis, qui est une maison d'édition indépendante fondée en 2006, qui est diffusé par Actes Sud. C'est un roman qui nous transporte sur le Causse du Quercy, où une femme, dont la profession est de recueillir et mettre par écrit les dernières paroles de personnes en fin de vie, adopte un chien errant et mal en point. Ces déambulations sur le Causse nous entraînent au plus près du vivant. Votre roman a en préambule une citation de Virginia Woolf, qui est la suivante. « J'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'espace. » J'ai besoin d'air. J'ai si peu d'énergie. J'ai besoin d'être entouré de champs nus, de sentir mes jambes arpenter les routes, besoin de sommeil et d'une vie tout animale. » Cette citation de Virginia Woolf est tirée de son journal intégral. Alors, Sandrine Bourguignon, pourquoi cette citation ?
Il me semblait qu'elle correspondait bien au texte. Enfin, déjà, elle me correspond bien à moi.
Oui.
Et puis, il me semblait qu'elle correspondait bien au texte que j'étais en train d'écrire. Après, c'est sûr que quand j'écris, ça peut me prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, je vis à côté, donc je lis. Et en l'occurrence, il y a une période où je lisais le journal de Virginia Woolf au moment où j'écrivais ce texte. Et puis, je suis tombée sur cette phrase et je me suis dit, ben voilà. Et puis j'ai même décidé, la phrase m'a tellement plu que j'ai même décidé d'en faire le titre, la fin, d'en faire le titre du livre.
Et d'une vie tout animale. Et oui, il y a cette idée-là qu'elle prend l'énergie de la nature en se promenant dans les champs nus. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui, dans votre processus d'écriture, vous dites que vous écrivez sur plusieurs années, que ça vous prend vraiment du temps, c'est quelque chose qui vient progressivement.
Oui, l'écriture, ça dépend bien évidemment des textes, mais oui, enfin, j'écris depuis 30 ans tous les jours de ma vie. Donc au bout d'un moment, je prends des notes ou j'ai une idée vaguement de sujet, de thème ou une image. Et à partir de là, j'ai remarqué quand on avait une idée en tête, bien évidemment, tout nous ramène à cette idée, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit. Donc je prends des notes, j'ai toujours pris beaucoup de notes pendant des années sur des post-it qu'il y avait partout, dans la voiture, dans la maison, partout. Et puis maintenant sur le téléphone, je ne sais pas si c'est mieux ou pas. Et puis voilà, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à ce qu'un moment j'ai le sentiment d'un peu d'avoir fait le tour. Et ensuite, eh bien, je procède un peu par collage, par montage, dans un fichier, et puis je reviens dessus pendant quelques semaines ou quelques mois, et puis à la fin j'ai souvent un gros paquet de textes, enfin un texte qui fait 500 pages peut-être, et puis l'étape d'après c'est de couper.
D'épurer alors en quelque sorte.
Oui, c'est ça un peu. Enfin, à l'origine j'ai un peu une formation de scénariste, et puis à l'adolescence je voulais être monteuse, et j'ai l'impression que ça correspond un peu à ça, enfin de faire du montage, comme si j'aboutissais à un bout à bout et j'avais le dérochage devant moi, et puis peu à peu, ben j'essayais de voir. Enfin, de manière générale, moi ce qui m'intéresse c'est la relation, et donc la relation entre les humains, mais aussi la relation entre les mots. Enfin, pour moi les mots n'ont pas le même sens à côté d'un ou à côté d'un autre, ou les paragraphes pareils, donc c'est vraiment une espèce de collage, de montage qui me permet de trouver peu à peu une espèce de forme. Enfin, c'est vraiment quelque chose en formation et transformation, mais du coup c'est plutôt le travail, enfin pour moi le travail d'écriture, un travail de la matière, des mots, et une question de forme.
Il y a un des personnages qu'on rencontre brièvement dans le roman, qui est le père décédé d'une fratrie, qui laisse derrière lui des milliers de pages dont les enfants vont essayer de faire quelque chose, enfin, en tout cas vont essayer de sauver ça. Et il y a cette idée-là, justement, qu'il va falloir les monter, ces pages, puisqu'elles sont un peu léguées en vrac, quoi. Mm-hmm. C'est le sauvetage d'une écriture qui va être laissée de côté.
Mais oui, j'avais pas fait le lien, mais effectivement, il y a un peu un parallèle entre ce moment-là du texte et un peu mon travail, oui, qui est quelque chose de tous ces petits bouts de mots, de textes ou d'êtres humains, enfin tous ces petits morceaux de nous qui tombent, on va dire, le travail d'écriture est une forme de, je ne sais pas si c'est sauver, mais en tout cas, ouais, les ramasser un peu et les accueillir, et puis essayer de les mettre en relation et leur donner vie.
Oui. Ben, alors, moi, je vous propose de lire un court passage de votre roman pour donner un peu une idée du style d'écriture. C'est après la rencontre donc, de Laure, qui est la protagoniste, avec ce chien. Elle va l'amener voir un vétérinaire, et je lis ce petit passage, et après peut-être on en discute, si ça vous convient.
Oui.
Allez, c'est parti. Alors, quand elle entre, une odeur de tabac. Le vétérinaire apparaît et Laure insiste pour dire que ça n'est pas son chien, qu'elle souhaite simplement le remettre sur pied pour que quelqu'un l'adopte. Elle raconte toute l'histoire et le vétérinaire fait de temps en temps la moue, sans qu'elle sache si c'est à cause de ce qu'elle dit ou bien de ce qu'il palpe sur le corps de l'animal. Il renifle la laine du chien. Puis il se regarde longtemps dans le blanc des yeux. L'homme et la bête, seuls au monde. Après analyse d'un échantillon de sang, le vétérinaire conclut un dysfonctionnement général. Aucun chiffre n'est dans les normes, mais il n'y a rien d'alarmant. Le corps du chien semble avoir trouvé son propre équilibre au bord de toutes les maladies. Un chien qui aurait choisi de vivre entre la vie et la mort. D'après l'inspection des dents, il aurait environ un an et le vétérinaire estime qu'il est possible qu'il ait vécu plusieurs mois dans la forêt à manger de la terre et du bois, des charognes. Il a peut-être été rejeté par sa mère à la naissance parce qu'elle l'aura senti trop fragile et que la nature délaisse les plus faibles d'entre nous. Ou bien son propriétaire se sera débarrassé de toute la portée. Il les aura jetés au fond d'un ravin et celui-ci aura remonté la pente. Le vétérinaire prépare un sac de médicaments pour l'estomac, les intestins, les glandes anales, les peaux atopiques et les maladies auto-immunes. Il ajoute une peluche offerte par la maison pour que Laure lui apprenne à jouer et il précise, amusé, qu'il serait temps qu'elle lui trouve un prénom. Elle repart avec le chien qui fixe la route impassible assis à la place du mort et elle se dit qu'elle pourrait l'appeler le sphinx. Mais de retour à l'atelier, à sa manière d'aller va-nu-pied et d'imposer sa chance comme une évidence entre les herbes hautes, à sa façon désinvolte et indifférente d'avoir chamboulé l'existence de l'or, et à cause du tonneau bien sûr, elle décide qu'il s'appellera Diogène. Donc voilà, ce chien est entré dans la vie de l'or et il s'appelle Diogène désormais. Quelle relation a l'or avec ce chien Diogène?
Oui, j'aurais du mal à qualifier cette relation, mais oui, en tout cas, elle se retrouve avec ce chien malgré elle.
Ouais.
Et puis, elle doit faire avec... elle doit apprendre à cohabiter avec quelqu'un qu'elle n'a pas choisi et qui, en plus, est malade. Mmh. Et avec une force de vie en même temps. Enfin, il se trouve que j'ai commencé à écrire parce que je me suis retrouvée avec un chien. Alors après, les choses sont différentes, mais un chien qui est malade, enfin, tout ce que vous venez de lire sont exactement toutes les maladies de mon propre chien. Il a 10 ans maintenant, mais ça fait 10 ans qu'on me dit qu'il lui reste un mois à vivre. Donc voilà, je suis partie un peu de cette chose que j'avais à vivre et à supporter avec tout ce que ça apporte de joie, de découverte, de la façon dont on se retrouve obligé de se laisser transformer par un animal, ou même d'ailleurs par avec un autre en général avec lequel on vit, quoi. Donc,
par la relation, oui.
Voilà, le texte raconte comment ces deux êtres vont essayer, malgré eux, de se transformer l'un l'autre, quoi. Mmh.
Et de s'insuffler.
De se transformer l'un l'autre.
Oui. Et s'insuffler un peu de souffle, parce qu'en fin de compte, ils sont tous les deux aussi un peu en besoin d'énergie, quoi, quand même. L'un et l'autre, ils ont besoin de se conforter.
L'énergie que leur fournit le cause au quotidien et cette plongée dans cette vie intense de la nature dans laquelle ils vivent.
Oui. Et du coup, il y a de très belles descriptions du Kos, du Quercy, qui du coup sont le reflet de vos déambulations à vous, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Et vous écrivez au fil de vos déambulations.
Ben oui, en fait, c'était parce que à la base, je suis pas une grande marcheuse, mais quand on a un chien, on est obligé de marcher au minimum 2 heures par jour, donc. Donc, m'ennuyant un peu, je me suis mise à observer un peu avec son regard à lui ce qui m'entourait. Et donc, effectivement, j'ai écrit de longues années au cours des balades, de ce que je voyais, de ce que je ressentais, de ce que je pouvais penser, de ce qui m'entourait lors de nos balades.
De ce que vous observiez du vivant, de ces naissances de brebis qui survivent pas toutes, enfin de... Il y a beaucoup ce rapport-là au vivant et à la mort dans cette nature.
Mais oui, c'est cette tension-là entre la vie et la mort permanente qu'on constate quand on regarde autour de soi au cœur de la nature.
Et qui fait écho donc au métier de l'or, l'héroïne, dont la profession est de recueillir et de mettre par écrit les dernières paroles des personnes en fin de vie. Et qui va être donc du coup sans cesse en rencontre avec des gens qui sont plutôt sur la fin du parcours. Et ça, cette partie-là de votre écriture, ce sont des bribes que vous avez aussi montées, comme vous dites, dans ce processus de montage.
Oui, tout à fait. Oui, c'est aussi à partir de mes différents métiers. Enfin, je travaille plutôt dans le domaine de la santé depuis quelques années, donc c'est aussi des rencontres. Alors après, c'est transformé, hein. Il n'y a aucune personne vraiment dont j'ai reproduit les fragments dans le texte, mais c'est un mélange, une transformation aussi. Comment la langue aussi transforme ce que je commence à noter, me donne une idée ou me donne une pensée. Donc en tout cas, c'est inspiré, oui, de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Dans mes différents métiers, et donc oui, je prenais des notes, et puis parfois quand on revient sur les notes, quelques semaines ou quelques mois plus tard, on les pense autrement, on les transforme, et ça a donné lieu à toutes ces petites bribes.
Et alors, toutes ces petites bribes forment un ensemble extrêmement cohérent, puisqu'on est totalement pris dans le récit, du début à la fin, et qu'on progresse avec ce chien qui... qui est à la fois totalement désinvolte et toujours un peu sur le fil, toujours un peu sur la brèche. Et il y a une phrase, moi, que j'ai beaucoup aimée dans votre roman, qui est que, la suivante. « La vie n'est pas harmonie, mais tension. » Et je la trouvais très belle. Qu'est-ce que ça vous renvoie
Mais oui, comme je vous disais un peu, je pense que quand on est plongé dans la nature, on a vraiment en permanente cette tension vie-mort. Et puis, oui, je trouve que la vie... L'essence même de la vie est une espèce de contradiction et de force contradictoire, en tout cas, à laquelle on est obligé, chacun d'entre nous, d'essayer de mettre de l'ordre, essayer de trouver un sens.
À nos élans, un peu.
Oui.
Et oui.
Et puis aussi, ne serait-ce que, enfin, aussi par rapport au langage et à l'écriture, enfin, c'est aussi quelque chose de l'ordre de la tension qui constitue mon travail, avec les mots, ceux qui vont ensemble, ceux qui ne vont pas, comment ça crisse, comment ça coince dans le langage, et puis aussi l'importance du langage dans nos vies, dans nos corps, quoi, l'effet que ça peut avoir. Enfin, le langage peut être à la fois un remède et un poison, on va dire,
oui.
Comme tout, et donc c'est aussi cette tension-là, cette tension.
Et il est beaucoup question de communication dans ce roman, et il y a notamment les brebis qui sont tout autour de Laure, et au tout début du roman, c'est un ensemble un peu indifférencié, elle les entend, elle sait qu'il y en a beaucoup autour d'elle, et à la fin, donc au début elle tend l'oreille pour essayer de les localiser, pour essayer de voilà, peut-être les identifier un peu, et à la fin elle les différencie au bout d'un an et demi dans cet atelier. Elle différencie leur voix en quelque sorte, et c'est aussi à l'image de la progression de cette personne et de la communication qu'il peut y avoir quand on prend le temps d'écouter. Toutes les brebis qui traversent le paysage, ça aussi c'est quelque chose sur le cos du Quercy qui vous a imprégné.
Oui, tout à fait. Bon, alors, il se trouve, depuis 2-3 ans, ça a un peu changé. On a de plus en plus de vaches.
Oui, ah oui, il y a ce tournant-là dans le roman aussi, à un moment donné.
C'est vrai. Oui, c'est ça. On a eu le loup il y a quelques années. Et puis, j'ai cru comprendre, en parlant avec des agriculteurs, que c'était aussi pour des raisons un peu financières. Mais du coup, on a de plus en plus de vaches, alors que depuis des siècles, c'était des moutons. Mais du coup, oui, les premières années, moi, j'habite sur le Cos depuis un peu plus de 20 ans. Et au moins pendant 15 ans, il y avait uniquement des brebis qui sont en liberté sur le Cos, et parmi lesquelles j'ai vécu pendant 15 ans.
Et la vache, évidemment, ça va aussi transformer cet écosystème et ce paysage.
Et oui.
Ça va être
et
autre
oui.
chose, quoi. Et ça, c'est l'arrivée du loup, vous pensez, qui a justifié ce changement ?
Oui, il y a eu une bascule quand même, je crois. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Après, je sais qu'il y avait aussi une question... question financière, où d'élever des vaches coûte moins cher et rapporte plus que des moutons, et aussi parce que oui, enfin, je crois qu'il y a eu une grande terreur quand le loup est arrivé. Il a été abattu. C'était une louve, elle a été abattue l'année dernière, mais en tout cas, ça a beaucoup, beaucoup agité par ici les agriculteurs, oui.
Oui, et oui, là aussi, on est dans le rapport au vivant et à la vie, à la mort. Il y a beaucoup de scènes de prédation dans votre roman, le passage régulier des chasseurs qui partent, qui reviennent de la chasse. Donc tout ça, c'est très présent, ce cycle, en fin de compte, de naissance et de mort dans le vivant, en permanence. Voilà.
Mais oui.
Et d'accord. Donc du coup, sur le Cos du Quercy, actuellement, ça tend à aller vers plus de vaches que de brebis. Ben, c'est quelque chose que moi, je ne savais pas. Donc,
Après, peut-être qu'il y a des zones un peu différenciées sur le Cos, mais en tout cas, là où j'habite, c'est flagrant.
Ok. Eh bien, écoutez, Sandrine Bourguignon, je vous remercie beaucoup pour cette interview et qui nous a permis d'avoir un aperçu de votre roman et d'une vie tout animale que les personnes personnes qui nous écoutent peuvent trouver aussi bien dans les librairies indépendantes du territoire que dans les bibliothèques du territoire sur le réseau de lecture publique, puisque comme votre ouvrage a été sélectionné, nous l'avons acheté en de nombreux exemplaires. Donc voilà, je vous remercie beaucoup Sandrine Bourguignon.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt alors, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Et nous allons maintenant entendre de Macha Garibian la chanson « Petite Zibeline ».
Aux douces origines, murmure à mon oreille, je veux entendre ta voix, comment le jour s'éveille. Sur la route de la soie, je voudrais que tu danses sur le lit des souvenirs. Je voudrais que tu danses. Comment l'amour peut encore s'égarer quand pointe au petit jour l'abri de ton passé.